Plus d'un milliard de personnes à travers le monde apprennent l'anglais en ce moment. Et plus de 50 programmes à l'UQAM ont des exigences d'anglais. Saisissez l'occasion d'améliorer votre anglais dans un environnement convivial avec des enseignants qui ont à cœur votre réussite académique. L'École de langue à la Faculté de communication de l'UQAM offre des cours vous permettant d'étudier l'anglais sous tous ses angles. Conversation, prononciation, lecture, rédaction, présentation orale, littérature et culture pour ne nommer que quelques domaines ciblés par nos programmes. Ouvrez la porte vers de meilleures compétences en anglais et contactez-nous à l'École des langues de l'UQAM.
Pool Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
What a day, ici Robert Nelson de À la claire ensemble. Sur les ondes de choc.
Vous savez, le monde tire à sa fin. On le voit, on l'entend, on le sent. L'humain court à sa perte et il est trop tard pour ralentir le processus. Nous avons entamé le début de la fin. Puis de toute façon, il n'y a que nous qui nous intéresse, notre petite personne, et c'est d'ailleurs l'origine du problème, mais comment peut-on en vouloir à l'humain? Tout ce qu'on veut, c'est être heureux. La quête du bonheur, certes, mais à quel prix? Nos vies sont que rarement trépidantes. Toute l'année, le dos arqué devant nos écrans d'ordinateur pour un maigre salaire, à fixer nos fonds d'écran aux paysages de plages ensoleillées, de prés verdoyants, de montagnes majestueuses. Nous rêvons, jour après jour, dans l'attente de nos vacances pour enfin vivre pleinement ce rêve. Nous partons à l'aventure pour une semaine et enfin nous nous sentons vivants. Mais dès que le sablier s'est écoulé, d'un pas lourd, nous sommes de retour dans nos cubicules gris. On change notre fond d'écran pour continuer à rêver jusqu'à l'année suivante et ainsi se poursuit le cycle de la vie, jusqu'à notre retraite, là où nous sommes maintenant trop vieux pour profiter pleinement du temps qu'il nous reste, vivre, puis mourir. Nous sommes en manque d'aventure, de drame, de comédie, de suspense et d'horreur. Nous sommes cinéphiles, car c'est non seulement un incroyable divertissement, mais c'est avant tout une porte de sortie. Un moyen facile et abordable pour s'échapper de nos vies ternes. Un moyen magique et ensorcelant de fuir nos responsabilités. La grande évasion des âmes esselées et épuisées par l'urgence de vivre. Nous sommes cinéphiles, car nous rêvons de mieux, de plus grand, d'immensité, de merveilles et d'enivrantes fantasmagories. Nous l'attendons, impatiemment, jour après jour, tout au long de l'année. Ce moment où tous nos rêves deviennent réalité. Pour en faire vivre nos utopies et découvrir le monde. Alors que la canicule fait rage sur la ville, nous nous tairons dans les sous-sols climatisés, bien à l'abri, à profiter de cette visite annuelle des dieux au Festival Fantasia. Une des plus grandes célébrations du cinéma que le Canada ait connue. Comme une lumière aussi forte que le soleil au bout du tunnel, humide et froid de nos mornes et répétitives insensées vies. Et le festival s'ouvre, se présentant devant nous comme la Mecque, le paradis, l'Éden, un oasis d'extase, un voyage entre le ciel et l'enfer. Durant trois longues semaines, nous affrontons cette odyssée onirique, euphorique, digne des dieux de l'Olympe. Là où l'imaginaire se transforme en des œuvres qui nous font saliver, rêver. Ils nous font peur, ils nous font réfléchir. Nous lançons soupirs et hurlements et nous font lever bien haut et crier en chœur. Oui, nous pouvons! Elle nous donne la force de continuer en balayant nos idées noires, nos obscurs mélodrames du quotidien. Nous fait voir le monde et démystifier ses mystères, analyser ses couleurs et ses différences. Le cinéma et ses montagnes russes d'émotions, ses voyages dans le confort de nos sièges rouges comme le sang et la fougue de ses audaces qui nous font réaliser que seule la mort nous arrêtera. Nous brûlons sous les flammes de nos ambitions, enfin réalisées jusqu'à son point culminant, qui nous soulève comme un frisson foudroyant, nous tenant à bout de bras au sommet du monde, le cinéma. Ces artisans, ces acteurs, ces rencontres qui nous font grandir, ces paroles auxquelles on s'abreuve pour nourrir nos esprits fatigués, ces discussions animées qui nous font avancer, ces héros et ces vilains, tout son théâtre majestueux, grandiose, monumental et solennel qui nous redonne espoir en l'humanité et en l'avenir. Le cinéma nous fait oublier qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons. Le septième art qui nous fait crier « Oui, nous vaincrons !» Et alors que tout semble parfait, au bout de 3 semaines d'aventure éprouvante, émouvante, intelligente et encourageante, nous arrivons au bout de la ligne, la fin du chemin de fer, la conclusion de ce grand voyage, dernier arrêt, le retour du quotidien, net, fret, sec. Elle nous retombe sur la gueule, comme une météorite, la constatation de nos vies ordinaires. Et tout ce qu'il nous reste, le courage, la force, la volonté et l'impatience pour traverser ces prochaines années, la tête débordante d'idées et d'illusions, de désirs et de délires, de nostalgie et d'espérance. Nous ferons du mieux que nous le pourrons pour se reposer, reprendre nos forces. Nous reviendrons, soigner nos blessures, jusqu'au retour du Festival Fantasia l'an prochain. Merci Fantasia pour ces rencontres uniques et toutes ces merveilles que nous offre le cinéma. Je suis Simon Predge, et vous écoutez Les Oubliettes, votre sanctuaire des films étranges et surprenants, à Fantasia. Salut les gars!
Bonsoir!
Comment ça va?
Ça va bien toi?
Ça va. J'étais un peu en feu aujourd'hui.
Ah, mais c'est, ben oui,
on va faire une petite introduction.
Il était tout content à la fin. J'aurais dû filmer ça, beau sourire de petit gars comme dans un magasin de bonbons.
Tout à fait.
Hey, je me suis forcé là.
Ben,
j'ai
bravo.
Ça en 2 minutes.
Ben oui.
Non, j'ai mis un petit 15 maintenant. Mais vas-tu que ça méritait une belle fin grandiose là pour la fin du festival? Alors, moi je me suis déjà présenté, mais c'est à votre tour. J'ai en studio avec moi Éric Arsenault, bonsoir.
Ben bonsoir Simon.
Et Olivier Bigonnès, bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va bien toi?
Ça va.
Pas
ça
trop
va.
Brûlé?
Je pense qu'on est fatigué un peu là.
Tout le monde est fatigué.
Avec la canicule.
Ouais, c'est
Olivier
ça.
Olivier a chaud.
Ah oui.
Ben ouais, mais on sue toutes les larmes de notre corps. Ouais, pour ceux qui ne sont pas de Montréal, il fait chaud en bâtard ici.
Oui.
C'est la canicule. Pour la France, de toute façon, c'est pire
c'est
encore.
Bon, oui, c'est pire.
C'est pire chez vous. Donc, on vous plaint. On comprend un peu ce qui se passe. Même pour Montréal, c'est quand même un gros été de canicule.
Wow,
là.
Oui.
On a eu ça l'année dernière aussi,
oui,
mais
oui.
Ça semble plus long cette année,
ça
j'ai l'impression.
De pire en pire, d'année en année, Simon.
Et oui, c'est la fin du monde!
Je pensais pas qu'on allait parler de météo aux oubliettes.
Ouais, oui. Alors, il fait présentement 22 degrés dans nos studios. Appelez, puis on te gagne un t-shirt!
Oh yeah!
Ben non. Là, c'est... on a eu d'ailleurs, pour des raisons de fatigue, mais aussi des raisons de canicule, là.
Oui.
Des gens ont quitté le navire. Marc Boisclair ne sera pas avec nous aujourd'hui, mais lui, on le savait. Il est présentement en train de regarder le film d'Ashra, qui a l'air extrêmement bon, donc hein, on y en veut pas. Laurence Côté-Collins sera pas avec nous non plus parce qu'elle est trop bien de son air climatisé.
Idem
pour Steven Lefrançois, qui est peut-être en train de nous écouter live de son sofa à l'air climatisé avec sa petite famille. On vous salue.
Allô, Benji!
On vous en veut pas, c'est pas grave, mais c'est sûr qu'on aimerait mieux fêter nos derniers moments du festival avec vous. C'est pas grave. On va le faire sans. On va faire avec. Hein? On n'a pas
ça
le choix.
Ça va être intime.
Ben oui. Ça va bien aller pareil.
Ben oui.
Comment s'est passé votre dernière semaine, de manière générale, là, sans aller de...
C'est la canicule ou...
Mais là, c'est à l'air climatisé quand même,
oui,
le Fantasia.
Même. Moi, je te dirais, c'est en montagne russe.
Ouais, t'as eu des hauts et des bas.
On a eu des hauts et des bas. Je pense qu'on a vu pas mal ensemble, en plus, je pense.
Belles affaires qu'on a vues, ouais. Ouais.
On va en parler.
Moi, je te dirais que c'est un petit peu comme ma deuxième semaine. La première semaine, mais la deuxième
c'est pas
semaine.
Pas tellement là, ouais.
Puis
c'est identique, je te dirais, à la deuxième semaine au niveau des films que j'ai vus. Là.
Ouais, la qualité.
La qualité cette année,
Ben, c'est un peu comme l'année dernière. Hein, la première semaine a peut-être pris du temps un peu avant d'embarquer. Les films n'étaient peut-être pas top pour nous, ben, dans nos goûts à nous, du moins la première semaine. Puis là, on est tombé sur vraiment du beau stock là, encore cette semaine. Ben cool. On vous le dit, si vous n'êtes pas encore certain, il reste encore deux jours à l'enregistrement de l'épisode. Donc, on est mardi. Il reste encore mercredi et jeudi. Ça se termine le premier. Il reste d'ailleurs même encore des bons films. Il y a The Lodge demain, mercredi, qu'on a bien des attentes. On a le goût d'aimer ça. On verra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, il y a une couple d'autres affaires. Jeudi, mais un peu moins excitant dans mon cas. Là.
Ouais, moi aussi. Ouais. Le film d'ouverture, là.
De fermeture, pour Marie.
De fermeture, oui, excuse. Hein.
Ouais, mais ça, c'est pas notre zone, là. Non. On est dans l'anime.
Non, il y en a
un autre,
là, celui de boxing ou je sais pas quoi.
American Fighter,
oui.
ça? Ça se peut. Mais c'est vrai que c'est un gros film. Mais c'est un gros film, American Fighter, mais c'est pas dans mes cordes. Moi, des films de coup de poing, c'est moins mon genre, un peu. Il y a toujours moins d'histoires, ben des coups de poing. Fait que moi, j'aime les histoires, moins les coups de poing. Fait que c'est ça. Mais sinon, il y a le documentaire Steampunk Connection que j'avais le goût de voir. Mais d'ailleurs, on pourrait commencer avec ça si ça vous tente. J'y vais un film cette année que j'ai pas eu le temps de parler encore, j'ai aucune note, fait que je vais y aller un peu de mémoire là, mais il y a un film que j'ai vu cette année qui m'a turné off, parce qu'il était très bon, mais qui m'a pu donner envie d'aller voir des documentaires sur des passionnés, des geeks de quelque chose. Je vous explique. J'ai vu le film Phantom of Winnipeg, le documentaire Phantom of Winnipeg, parce que on a très peu parlé parce que je cherchais le bon moment, puis on n'a jamais eu le bon moment. Je vais le faire là. Cette année, on rendait hommage à un producteur et on a reçu aussi Paul Williams pour le film Phantom of the Paradise. La petite histoire que vous n'êtes pas supposé savoir, mais moi j'en sais un peu, fait que je vais le dire parce que de toute façon, personne qui écoute, je me ferai pas chicaner. C'est qu'on était supposé, en fait, le prix Cheval Noir cette année, on voulait le remettre à Brian De Palma. C'est lui que Fantasia voulait recevoir cette année pour des raisons que j'ignore. Peut-être que aussi dans le fond, là, c'est pas ça le point. Là, il n'était pas disponible. Ça a l'air qu'ils ont travaillé très fort. Ça n'a pas fonctionné pour Brian De Palma. Et pour des raisons qui, pour moi, sont très mystérieuses, on est tombé sur le deuxième choix, qui est le producteur du film. Ce que je trouve un peu surprenant. J'ai entendu, entre autres, dans les excuses, que c'était pour profiter du 45e anniversaire de Phantom of the Paradise. Mais il me semble que 45, c'est une drôle de date. T'aurais pas pu attendre dans 5 ans puis réessayer avec De Palma.
Ben oui.
Je le sais pas. Je trouve ça un peu étrange. Je le sais aussi qu'à l'interne, puis ça, j'espère qu'on ne tapera pas ses doigts. Ah ben non, on ne tapera pas ses doigts. Ariel l'a dit lorsqu'on a parlé de la programmation, mais il semble que les programmateurs ne sont pas tous d'accord que le Cheval Noir cette année est un producteur. Mais bon, ceci étant dit, c'était quand on a quand même célébré Phantom of the Paradise, film de 74, je pense, de mémoire. Comme je dis, j'ai pas mes notes là-dessus, j'avais pas prévu ça. Et c'était une magnifique copie restaurée qu'on a vue à l'Impérial d'Avon Salcombe. Pas comble, mais presque. C'était vraiment un beau party. J'ai été très heureux de revivre ce merveilleux chef-d'œuvre du cinéma. Une comédie musicale rock. Puis j'haïs les comédies musicales pour mourir, mais ça, c'est une zone à part. C'est vraiment un excellent film. Toute la musique, d'ailleurs, composée par Paul Williams. Puis là, je le nomme depuis tantôt, puis là, t'es en train de chercher c'est qui, ça, Paul Williams. C'est celui qui fait le boss de la compagnie disque Death Records, qui a vendu son âme au diable pour le rock. Et il était présent, je l'ai rencontré, un être très sympathique, vraiment comique, grâce au talk show. Mais ça, on reparlera du talk show plus tard. Mais bon, à travers tout ça, il y a eu le doc Phantom of Winnipeg. Donc, ce qui arrive, c'est quand Phantom of the Paradise est sorti en salle, ça a été un flop. Les gens ne sont pas allés le voir. C'est un désintérêt total. Ça n'a pas marché. Sauf à Winnipeg. Étrangement, ça a été un immense succès à Winnipeg. Le film est resté en salle pendant plusieurs mois parce que les gens allaient le voir 2, 3, 8, 10, 12 fois en salle, tellement que les gens se sont fabriqués leurs propres produits dérivés parce qu'il n'y en avait pas vu que c'était un flop. Il y a un gars dans la région de Winnipeg que sa spécialité, c'est de fabriquer le masque de Phantom of the Paradise. Ils se sont fait faire des t-shirts. Il y a une fille qui fabrique des bijoux. Tu sais, ça a été un méga hit. Puis ça a créé quoi? une communauté de fans de quelque chose, dans ce cas-ci un film. Puis le film, le documentaire nous parle de ça, des gens qui ne se connaissaient pas, qui se sont rencontrés grâce au film, des passionnés d'un sujet, de Phantom of the Paradise, puis à quel point la communauté est riche puis fascinante, blablabla. Bon. Très bon doc, bien réalisé, qui utilise tous les codes de ce type de doc. Et pourquoi je dis ça? C'est justement parce que c'est des codes et c'est toujours les mêmes codes. À chaque année, je vais voir justement Fantasia, un documentaire sur des fans de quelque chose. Puis j'ai réalisé cette année que les sont toutes pareilles, ces docs-là. La première phrase que, en fait, j'ai rencontré Justin, que je vais vous présenter éventuellement, les boys, parce que je l'ai invité à faire des chroniques ici éventuellement. On s'en reparlera. Mais je tombe sur Justin, qui était co-animatrice au talk show de Fantasia cette année. Puis elle me dit, comme, t'as-tu aimé ça? Puis ma réponse, ça a été, ben, ça m'a fait réaliser une chose, c'est que tout le monde est passionné de quelque chose. Et ça, ben, rapidement, tu peux découvrir qu'il y a une communauté de gens qui aiment la même chose que toi et il y a un doc qui s'en vient. Fait que c'est tout le temps ça, ces docs-là. Il y a des gens qui aiment quelque chose, on fait un doc pour montrer combien c'est touchant puis combien ils ont du plaisir ensemble. Puis là, c'est bien réalisé, c'est touchant, puis c'est des humains. Fait qu'on est touchés parce qu'ils vivent, puis leurs états d'âme. Mais c'est tout le temps la même affaire. Fait que Phantom of Winnipeg, c'était très bon, mais j'ai réalisé que j'étais tanné de ces docs-là. Ils sont tous bons, j'ai rien à dire, mais j'en ai trop vu.
Moi, j'ai une question. Moi, je n'ai pas vu le documentaire, ouais. J'ai vu le film plein de fois. Ce que je trouve intéressant là-dedans, puis oui, je comprends ce que tu veux dire, que t'as tout le temps des segments dans un documentaire où ils vont te montrer des fans, tu sais, comme un petit peu, ouais. Ils l'ont montré dans L'inquiétante absence, ouais. Ou name it, il y en a plein. Puis dans celui-là, ce qui m'intéressait, c'était pourquoi le phénomène à Winnipeg.
Oui, mais est-ce qu'on l'explique dans le documentaire?
C'est ça qui m'intéresse.
Ben, je pense qu'il essaye, mais il n'y a pas vraiment de réponse. Okay. C'est difficile, mettre la main sur ça. Il n'y a pas de réponse claire. Il y a des théories qui sortent d'une bouche à l'autre. Mais je pense que... je pense qu'au final, c'est le timing. Puis on peut pas, ça s'explique pas si facilement que ça. Peut-être que c'est juste une communauté qui ont embarqué dans ce type de musique-là. C'est très rock. C'est Winnipeg. Il se passe rien à Winnipeg. Ouais. C'est pour ça que je pense que c'est beaucoup plus une question de timing qu'autre chose. Timing et la ville, ou que c'est une ville qui se passe pas grand-chose.
C'était pas comme un cinéma qui venait d'ouvrir ou.
Non, pas du tout. Fait que, ouais, c'est, dans cette catégorie-là, j'avoue que c'est un peu flou parce que c'est une question qui est difficile à répondre. Ouais. Fait que moi, mais il reste que, tu sais, c'est quand même la seule place au monde qui a un band de cover des tunes de Phantom of the Paradise.
C'est quand même cool.
Pour vrai, c'était très cool. Les intervenants étaient géniaux. Mais c'est ça, c'est juste, je pense que je suis tanné de cette recette de documentaire-là qui est toujours la même. Tu sais, je vais prendre un break, je vais y revenir, puis je vais aimer ça. C'est pas des mauvais films, mais la recette, je suis fatigué, en fait. Bon, là, j'arrête pas de parler. C'est à votre tour. Okay. Qu'est-ce que vous avez vu de bon cette semaine, là? Ça va faire, j'en sais pas.
Tu veux-tu quelque chose de bon ou de mauvais?
Ah, garde-toi, ce qui te tente. On a les deux.
Oui, ben gars, je vais commencer avec Aqua Slash. Qui a joué hier. Écoute, c'était salle comble, mais vraiment, c'était fou. C'est le deuxième film de Renaud Gauthier qui a réalisé Discopathe. Donc, en gros, l'histoire, c'est des jeunes qui graduent puis qui s'en vont fêter leur fin d'année dans un parc aquatique. Mais là...
Au glissade d'eau!
Oh yeah! Et là, pardon, il y a un tueur qui sévit. Bon. Parce que à l'époque, il y a eu des morts. Puis là, on le sait pas trop. Il y a quelqu'un qui revient. Qu'est-ce qui se passe?
Et là, il y a une histoire dans le passé des glissades d'eau.
En fait, c'est excessivement...
Ça fait bien Friday the 13th. Là.
Ouais, mais c'est excessivement... je dis classique. Oui, on ressort, là, c'est un... Écoute, un marathon de clichés de série B. Les filles en petite tenue, les gars super déchappés. Je veux dire, écoute, on se questionnait hier, je dis, si cette année-là il y avait un gros, c'est clair qu'il se fait écœurer. Tout le monde est parfait. Vraiment, tout le monde est parfait.
Okay. Ben ouais,
et là,
ça.
On a droit à du mélodrame d'adolescents qui prennent full drug, sexe, rock'n'roll. Et ben, rock'n'roll, il y a un band qui joue une chanson. C'est un band de cover des années 80. Ah, qui en prennent Sunglasses at Night. Eh
hey boy.
Très bon. Oui, mais le gars chante pas très bien. Bref, pis là, tu regardes ça, t'écoutes ça, pis t'es comme ok, tu sais, j'étais comme willing. Je me dis, tu sais, série B, série Z, tu dis, pas très subtil. Là. Mais là, pis ça dure, je dois dire, c'est ça, je dois dire en fait que son film n'est pas terminé.
Je peux qu'expliquer des affaires aussi. Je sais pas. Oui, mais okay. Vas-y, ben, d'abord, parce que je sais pas ce que tu sais.
Moi, parce que
je sais pas, j'ai su des affaires tantôt.
Ce qu'il nous expliquait, je pense, c'est par rapport au son, c'était son mixage n'était pas terminé, par rapport aux couleurs aussi, je pense par rapport à la fin que c'était pas complètement terminé. Mais bref.
Ben, je peux t'expliquer, vas-y. En fait, petit plus pour ajouter à ça.
Ben, oui,
en plus, vous avez eu droit au Director's Cut.
Mm-hmm.
Entre gros guillemets, parce qu'il y a eu de la chicane à l'interne, différentes visions à l'interne, le producteur, le réalisateur sont chicanés.
Okay.
Le film, techniquement, qui va sortir, va être 71 minutes.
Okay.
Ça, c'est la version du producteur. Sauf qu'à Fantasia, je sais pas comment il a fait ça, comment ça s'est passé, mais ça a l'air qu'à la dernière minute, le réalisateur est venu échanger, puis il a mis sa version, dit ça va être celle-là à soir. Version de 98 minutes, de ce qu'on m'a dit, peut-être trop longue d'ailleurs.
Ouais.
Puis c'est ce qui explique en partie aussi les bugs de son, puis tout ça qui est pas fini.
Ben, tu sais, les bugs de son, c'était pas si pire que ça, parce qu'ils nous avaient averti, mettez vos doigts.
Quand ça siffle.
Quand ça siffle, tu sais. Moi, je trouvais ça pas si pire que ça. Ce qui m'a dérangé, c'est que, écoute, je pense après une heure, il y avait pas de meurtre, tu sais, ou il y en a eu un ou deux, mais tu sais, vraiment.
Caché, là.
Caché, mais tu sais, très subtil, puis tu sais, on voyait pas grand chose. Jusqu'à temps, ce qu'on arrive, là, on voit une tonne de meurtre dans. Écoute, je vais pas trop le dire, parce que si vous voulez le
on
voir.
On m'a dit deux minutes, moi.
Oui. Puis là, tu sais, là, ça gicle, puis c'est correct, le sang, tout est là, tu sais.
Ça a l'air que c'est réussi, comme ça.
Oui, oui, c'est réussi, oui, oui, c'est correct, c'est cute. Mais, c'est long. Tu sais, faut que tu tapes, du mélodrame. Mélodrama d'ado, genre le chum contrôlant qui veut contrôler sa blonde, la petite pitoune qui couche avec un des gars qui travaille là, ça finit plus. Puis là, j'étais comme, ça achève plus, tu sais, puis écoute, signe, je me demande si ça a vraiment marché dans la salle. Il y a tout le temps quelqu'un qui riait, là. Je sais pas, lui était payé pour rire, là, mais la moitié de la salle riait. L'autre riait pas. Ça réagissait pas tant que ça.
Ouais.
T'es juste vers la fin. Bref, moi, écoute, même s'il y a une autre version qui sort, ça m'intéresse pas du tout. fait étonnant et l'être humain étant ce qu'il est.
Ouais.
Allez voir, il y a un article qui fait la promotion du film sur le Journal de Montréal. Avec les commentaires Facebook, allez lire. J'ai retenu deux choses. Les gens, écoute,
c'est moi, je me demande.
Honnêtement, je me demande si c'est pas une joke. Parce que on est en 2019, je peux pas croire. Là.
Il y a des gens qui pensent. C'était pas une joke.
Parce que l'article explique qu'ils ont utilisé vraiment des litres et des litres de sang, là. Vraiment, parce qu'avec l'eau, ça
mais il a pas utilisé le terme faux sang.
Non.
Et ça a causé des problèmes.
Et alors là, les gens pensaient qu'ils étaient allés voir Emma Québec pour leur dire, écoute, donne-moi du sang, j'en ai besoin pour mon film, fuck off le reste.
C'est des litres d'hémoglobine.
Ben voilà. T'sais. Franchement. De deux, les gens s'inquiétaient. Oui, mais quelle sorte d'idée que vous donnez aux maniaques? Là, j'irai plus au glissade d'eau, là. C'est fini.
Tu sais, ça fait combien d'années, là? Ça fait des centaines d'années. Ben, pas des centaines, mais tu sais, ça fait 100 ans qu'on a des films avec des gens qui se font tuer. C'est...
Ben,
regarde,
c'est
là,
ça. Hein? Je veux dire...
Arrive en ville, mon oncle, là.
Il y avait vraiment, vraiment, vraiment des commentaires absolument ridicules, comme quoi que, ben, moi, j'irais plus donner du sang, c'est ça que vous faites avec...
Non, c'est ça.
Tu sais, chez Emma Québec, pour mettre ça dans un film de violence, vous donnez des idées pour
aux maniaques.
Aux maniaques, pour ben, oui, d'aller mettre des lames de rasoir dans des glissades d'eau.
Puis il y avait d'autres commentaires, genre, pourquoi vous faites pas un film genre avec des petites affaires plus happy, là.
Oui.
Tu sais, il y a tellement de négatifs.
Non, mais si tu veux des affaires happy, va voir le film Menteur avec lui, José Hood, puis quand les nous patience.
C'est ça. Bref, moi, ça m'a mis en calice.
Ah, mais les gens, c'est des imbéciles.
C'est ça. Je reste encore un peu sceptique. On dirait, je me dis, est-ce que c'est des trolls? Quoi que, tu sais, Ginette.
Ah, non, trollée. C'était Nicole.
Oui, mais Ginette, Nicole, tu sais. Bref. Bref, c'est une grosse déception.
Ben regarde, moi je nous trouve primé en négation là. Ça te tente-tu de nous présenter Homebreaker?
Oui.
On continue dans le bitchage.
On continue dans le négatif.
On continue dans le négatif.
Ok.
On enchaînerait avec des trésors pour finir.
Moi, je l'ai ici, tu veux.
Je vais. Oui, oui, je l'ai.
C'est pas compliqué à résumer.
Je vais commencer. Je sais pas si c'est une petite toune pour nous mettre dans l'ambiance.
Ben oui. Je peux mettre. Mettons, on pourrait mettre du Lisa Loeb.
Ah, ben oui.
Parce qu'on est dans le thème 90.
Ouais.
Vas-y, Yelly, on t'écoute.
Hey boy, fait que Homewrecker, c'est un...
expliquer pourquoi je mets ça.
Oui.
Dans ça.
Oui, oui, on va l'expliquer.
C'est un film réalisé par Zach Gain, film canadien. Oui, c'est un film canadien.
Oui, mais donc c'est important que tu le présentes.
Ça... Ouais. Oui, parce qu'on a la belle qualité d'image canadienne de nos films indépendants. Et on a en vedette Precious Chong, qui est la fille de...
Tommy Chong. Et de Cheech et Chong, pour ceux qui l'aiment pas. Là.
Et on a Alex Esso et elle qui avait joué dans Starry Eyes, qui avait joué à Fantasy ici en 2014, que moi j'avais personnellement beaucoup aimé.
Elle était bonne là-dedans?
Oui.
Ah, ben,
dans Starry Eyes, oui. Et écoutez, l'histoire, là. C'est l'histoire d'une femme qui, d'une jeune femme qui rencontre dans des genres de cours d'exercice, donc une autre madame assez particulière qui décide de l'inviter chez elle pour faire des rénovations futures ou quoi que ce soit. Donc là, elle, cette madame là qui est clairement que les fils qui se touchent, va la séquestrer, lui faisant croire qu'elle veut qu'elle soit son amie puis que tout le monde la laisse tout le temps, etc. Ok, donc le synopsis que je viens de vous dire, vous l'avez déjà vu probablement dans des films de TMN ou des cas vécus comme « Ma voisine, cette assassine » ou « Ma belle-mère, ma fausse belle-mère » ou c'est des films canadiens, toujours réalisés par des réalisateurs québécois le trois quarts du temps qui veulent juste payer leurs factures. Et dont un, c'est...
Tu sais qu'ils jouent à V là, le vendredi après-midi.
C'est
des téléfilms.
À TMN, ouais. Là, t'en as un paquet. Là. Le jour, ce n'est que ça qui joue. Okay? Donc, le synopsis là, que vous avez... Tout le monde a vu ce film-là. Tout le monde a vu le film dont je parle présentement. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. OK, mais c'est un véritable désastre, ce film-là. Ah, absolument, là. Hey, je pensais,
c'est
là,
bon mot.
Je pensais qu'après avoir vu... voyons, c'était quoi mon...
On s'est dit Hurt.
Hurt,
hey! Tu as dit c'était pire que Hurt.
Hey, j'ai mieux aimé Hurt que ce film-là, OK? Il est pas très long, hein? Moi, je me dis, OK, Simon, Laurence a regardé.
Hurt, H-U-A-R-T, là.
H-U-A-R-T, ouais. Le désastre l'année passée. Puis, juste, le film dure 1h15, donc... Et c'est les dialogues tellement niaiseux, des décisions tellement stupides. Déjà, en partant, tu t'en vas pas avec une étrangère chez elle. Après l'avoir rencontrée... 30 minutes dans un café.
Oui, parce qu'elle a donné un tampon. Puis après ça, elle l'a suivi au café.
Ben oui.
Là, ah oui, elle l'a dépanné.
Oui, elle l'a dépanné.
C'est plus de mon âge, mais voilà. Elle pitch un tampon. Ah, merci.
Ça rencontre au café.
Rien.
Imposant, tu sais.
Elle m'a donné un tampon, puis elle fait pitié un peu. Je vais aller chez elle, tu sais. Puis il y a tellement de scènes où elle va essayer de s'enfuir à un moment donné. Et il y a une réplique à un moment donné où... l'interprète, je me souviens plus de son nom là-dedans, Precious Chong, qui se la joue comme Rebecca Gayheart à la fin d'Urban Legend. Tu sais, quand tu te rends compte que c'est elle qui est la meurtrière, puis qu'elle a ses yeux, genre avec ses cheveux, elle a tout le temps les yeux sortis de la tête, je sais pas, c'est la fille à son père, je sais pas sur quoi qu'elle est, là, mais comme inspirée par à peu près, et c'est de shooter des phrases. Tu peux pas échapper à ma maison parce que ma maison, genre, comme je l'ai pas fabriqué, mais comme
j'ai sécurisé contre les violeurs. Non, mais il y a plein d'incongruités, il y a des affaires qui font pas de sens.
Attends, Simon.
Des erreurs d'enchaînement.
Ben aussi, tu sais, je t'ai écrit, je dis à fonce dans la porte.
Oui. C'est pas à part à courir, puis à fonce dans la porte. Mais c'est pas une porte patio, puis la vitre est propre, là. C'est une porte avec une vitre dedans.
Elle était pas barrée, la porte.
Elle en plus. Je sais pas pourquoi, elle est partie à courir, puis elle fonce dedans.
Elle fonce dans la porte, elle se cache en dessous de l'évier à un moment donné.
La drogue qui fait dire la vérité.
Oui, la drogue qui fait. Je t'ai donné une drogue, la drogue qui fait dire la vérité. C'est quoi ce drogue-là?
On est dans True Lies. Je te le dis.
C'est magique.
T'as trouvé ça où, la drogue de la vérité?
Je sais pas.
Au Canadian Tire.
Explique. Dans le fond, il faudrait expliquer pourquoi cette chanson-là.
Ah non, mais attends.
Ah, vas-y,
attends.
Vas-y, ben, regarde, vas-y. Je suis trop excité, là.
Moi, j'aime le non-sens. À un moment donné, bon, c'est déjà beaucoup de non-sens, parce que là, pour pas que la fille se sauve par la porte principale, ouais. Tu sais, qui, ah, tu sais, ça se barre de l'intérieur, donc elle a des barres à sort.
Ouais.
Mais là, pour pas qu'elle puisse faire ça, elle a mis une chaise à l'extérieur, sous la poignée, pour pas qu'elle puisse ouvrir la porte. Donc, hein, on a l'image, là, la chaise à côté, sous la poignée, en angle.
Dehors. Ouais, ben, dans, oui. Ouais, dans l'espèce de porche.
De
ouais.
Quoi qui attire pas du tout l'attention non. Des passants. Non. Mais là, la chaise, elle reste là, puis on pense plus à la porte d'entrée. Plus tard, dans la même journée, là, hey, sérieux, perdez pas votre temps avec ce film-là, vous le verrez jamais, ce film-là.
Non,
regardez pas.
Fun,
là, on vous le spoil, là. On ouais. Vous le spoil. Mais c'est là, à la fin, il y a un gars qui va venir sonner à la porte, puis il ouvre la porte comme si de rien n'était. Oups, soudainement, magie, la chaise n'est plus là. Mais il n'y a aucun moment, elle est allée enlever la chaise, là.
C'est
tellement mauvais.
On
là.
Peut tellement nommer un moment comme ça. Je pense que le moment le plus intéressant, c'est quand il joue au jeu vraiment début 90 ou fin 80.
Ouais.
Le jeu
Party
de,
Hunks.
C'est ça, où tu mets une vidéo cassette. Puis tu bouges tes pions.
Qui se confie,
là. Oui, puis qui se confie.
Hey, la confidence, c'est tellement hey. Chier. L'autre est séquestrée, puis elle se met à broyer, tout est mouvu.
Non, mais attends, je pense qu'elle joue la game, tu sais, en blandier comme
ça. Moi, je pense pas.
Ah, non, je pense qu'elle elle est vraiment émue à un moment donné, puis elle se met à broyer,
parce
pour
que,
vrai.
Regarde, au café. Elle disait, mais c'est ça au café ou dans la voiture, là. Elle dit, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais là, elle raconte ses problèmes de couple, tu sais.
Ouais, puis elle est pregnant, puis tout. Pis,
elle est pas
pregnant, c'est
elle a vu des émotions.
Oui, tu sais, puis elle se confie à cette folle, là.
Ah, la tune est encore finie, on va la remettre une troisième
mais
fois.
Cette chanson-là de Lisa, elle joue parce qu'à un moment donné, on a vraiment un point. Tu dis, ah, ben, c'est-tu le point milieu du film où, on sait, le point milieu du film, tout est en suspens en tant que tel, il se passe rien. Et t'as notre psychopathe qui chante à la caméra cette chanson-là de Lisa Loeb. Et moi, j'étais comme, on tombe-tu comme dans une espèce de Magnolia quand t'as le point milieu où tout le monde se met à chanter? Non. Elle fait juste. Mais elle t'a scrap.
Oui, elle t'a scrap.
Pas à peu près.
Puis elle essaie de faire comme dans le vidéoclip.
Comme dans le vidéoclip.
Ben, ça marche pas. Là, c'est comme la. Ah, la fille est prise dans le garde-robe.
Ah, oui. Écoutez, regarde, si vous allez sur YouTube, puis vous.
Il l'a-tu là-dessus?
Oui, mais si vous YouTubez, on va dire la tune de Lisa,
ouais.
Stay.
Oui, non, écoute la vidéo, puis écoute le film après.
Et si vous voulez écouter le film. Et d'autres petites scènes cocasses, exemple, à un moment donné, où notre victime va essayer de s'échapper par la porte d'en avant, tu sais, avec des mini-fenêtres dans la porte.
Ouais.
Elle donne des coups gentils avec une genre de sandale, pas de semelle.
Pis, ouais, mais ça doit être chiant de remplacer ces fenêtres-là. Tu veux pas briser ça.
Non, comme je suis pas mal certain que c'est soit la maison d'un ami ou quoi que ce soit, ils ont pas loué ça parce qu'il y a pas les moyens. Puis je pense qu'on a quelqu'un en onde qui voudrait donner son opinion sur Homewrecker.
Ouais, parce que bon, Laurence est pas ici, mais elle l'a vu aussi. Puis je me demandais si elle a aimé ça sur le film. Tu sais, est-ce qu'elle a aimé le film Homewrecker? Fait que je viens de l'appeler. On l'a en ligne. Salut, Laurence.
Allô, bonsoir.
Donc, on voulait savoir comment t'avais trouvé le film Homewrecker.
Ah, c'était vraiment de la merde. C'était vraiment pas bon.
Bon, ben parfait. Je te remercie. Je te souhaite une bonne soirée.
OK, merci. Bonne soirée.
Bye.
Et voilà, on l'a fait.
Ça, hey, bref, c'est.
Mais
c'est...
écoute, 15 battes, là, des faces qu'ils font. Puis maintenant, ils passent une petite voiture dans la face, comme pour y faire mal. Qu'est-ce que c'est ça?
C'est absurde.
Je vous dis, ne le regardez pas, mais plus je pense, oui, regardez-le.
Ah, oui, parce que c'est drôle.
Il y a tellement de mauvais.
Ah, mais c'est frustrant
moment.
En même temps.
Ouais.
Ça n'est un qui est frustrant.
Mais
c'est
une heure et quart.
Écoutant-là,
c'est gang, en gang. Un peu sous, un peu gelé.
Non, ouais, ça va être drôle. C'est. Oh, Seigneur.
Ça va être drôle.
Je pensais pas.
Bon. Je pense que c'était le pire film.
C'est le pire. Ça bat, voyons, Sadako. Ça le bat pas à peu près, là.
En tout cas, moi, ce que je suis sur le point de battre, c'est Lisa Loeb. Fait que là, je vais y faire ma gueule.
Là.
C'était drôle, là, mais rendu la troisième fois.
Pauvre petit.
Mais bon, je propose d'enchaîner quelque chose qui était le fun. C'est-à-dire que moi, je suis allé voir la conférence de Joe Bob Briggs, How Redneck Saved Hollywood.
Mm-hmm.
Qui est Joe Bob Briggs? C'est sûr qu'au Canada, c'est moins une célébrité, mais c'est un critique culte aux États-Unis de films de drive-in, de ciné-parc, de films série B, série Z. Il y a eu son show longtemps, mais c'est un show auquel on n'avait pas accès ici. Si on voulait le voir ici, ben il fallait le connaître d'avance. Là. Puis il fallait avoir des contacts aux États qui nous envoyaient des cassettes. tu pouvais, il y a des gens qui enregistraient le show puis ils te vendaient les cassettes dans le temps que c'était tout en VHS.
C'était pas un Elvira, mais un petit peu comme un Elvira.
Un genre d'horror host sans l'horreur.
C'est ça, exactement.
Ouais, il était plus cowboy un peu. Ouais. Puis c'est pas pour rien qu'il a fait sa conférence sur pourquoi les rednecks ont sauvé Hollywood. C'était présenté par Shudder. Merci Shudder. Mais il reste que c'était vraiment très bon. Moi, je connaissais Joe Bob Briggs juste un peu comme ça parce que c'est une célébrité là dans le milieu du cinéma de genre, mais c'est la première fois que je prenais la peine de l'écouter parler et je ne regrette rien. Pour ceux, pour la poignée de gens qui avaient vu ma conférence sur le cinéma d'exploitation, vous pouvez imaginer quelque chose de similaire là où il nous raconte une histoire, il nous parle de cinéma et avec des photos, des vidéos, des bandes-annonces. Il était très bon, très drôle. Tu vois que c'est un gars qui fait longtemps qu'il fait ça. Il maîtrise son micro. Je pense qu'il s'est même pas enfargé dans son texte une seule fois sur 2 heures. C'était 2h20 la conférence. Et moi, qui est quelqu'un d'impatient, je me suis ennuyé à aucun moment. J'ai jamais eu envie de sortir de là. Ça en dit beaucoup. Parce que même quand je regarde un bon film en salle, des fois, j'ai hâte qu'il finisse parce que je suis comme ça. Je suis impatient. C'est pas de ma faute, là. Mais bon, donc, il nous a expliqué comment les rednecks ont sauvé Hollywood. Il nous fait vraiment l'historique au complet des rednecks. C'est fascinant. Il nous parle de l'identité du tout premier redneck de l'histoire, la date précise de l'arrivée du premier redneck en Amérique, les moments sacrés des rednecks au cinéma. Tu sais, chaque bloc de sa conférence était séparé un peu en chapitres avec un titre qui apparaissait à l'écran. Et le titre le plus fascinant, c'était « Si elle a 16 ans, elle est légale! »
Oh my God!
Mais c'était ça, c'est du cinéma redneck. Oui, ben parce que là, entre autres, dans ce volet-là, il nous a parlé d'un film Shotgun Wedding, où c'est justement ça, c'est des vieux monsieur qui marient des jeunes filles de 16 ans. C'est vraiment trash. C'est vraiment fucking trash. Mais là, on parle vraiment de l'époque cinéma d'exploitation avec ça. Mais c'était vraiment bon. Qu'est-ce qu'il nous a... Ah oui, pourquoi le redneck est le plus grand vilain du cinéma américain? Son exemple est quand même très bon parce qu'il nous explique que si on veut installer un vilain dans un film, il faut prendre le temps, justement, l'installer, c'est le bon mot, faut prendre le temps d'expliquer pourquoi qu'il est le vilain, son origine, où c'est qu'il s'en va, c'est quoi son but. Avec tout ça, faut faire attention de plus en plus parce que les vilains, ça peut pas être n'importe qui, parce que t'as toujours des communautés qui vont s'insurger, blablabla, pis ça a toujours été, mais surtout aujourd'hui, les gens s'insurgent à rien, faut faire attention. C'est qui notre méchant, tu sais? Fait qu'il nous a dit que les rednecks ont sauvé Hollywood, entre autres, parce que c'est le méchant par excellence. Pourquoi? Parce que t'as pas besoin d'expliquer son origine, tout le monde s'en torche. T'as pas besoin d'expliquer pourquoi il est méchant, c'est un redneck, ça marche. T'as pas besoin de t'excuser après non plus, parce que les rednecks se plaignent pas. Fait que il nous a fait une liste, à quel point les rednecks s'est vraiment rendu le méchant par excellence de beaucoup de films hollywoodiens parce que ça coûte rien, t'auras pas de plainte pis t'as pas besoin de l'expliquer. Fait que mais il nous a aussi expliqué la différence existentielle entre Forrest Gump et Sling Blade, pourquoi Dieu aime les rednecks. Tu sais, c'est 2h20 de conférences, de jokes, d'anecdotes, c'était vraiment incroyable. Malheureusement, je peux pas résumer ça ici en 5 minutes. Fallait être là. Ouais. Si vous êtes chanceux, tu sais, comme c'est présenté par Shudder, peut-être qu'avec un peu de chance, quand il aura fini sa tournée de conférence, on aura la chance de le voir sur Shudder.
Mais il y a des émissions avec lui, de toute façon.
Mais il y a des émissions avec lui aussi, c'est sûr. Fait que, on peut quand même le suivre régulièrement. Ouais. Donc, Joe Bob Briggs, How Redneck Saved Hollywood, je ne m'attendais pas à autant aimer ça. Franchement, là, c'était excellent, un beau morceau d'histoire.
Puis pour les intéressés, ok, je sais que dans le temps, il y a peut-être à peu près 10 ans de ça, là, je m'étais acheté beaucoup de DVD où lui faisait la présentation au début, genre Blood Sisters ou des films de genre là, tu sais, où il donnait son grain de sel. Mais il a sorti The Last Drive-In with Joe Bob Briggs, qui est télé-série talk-show où ce qu'il invite, tu sais, du monde genre Felicia Rose ou toutes des Barbara Crampton, tu sais, toutes des actrices, des acteurs.
Celui-là sur Shudder. Ça.
Donc ça, c'est sur Shudder. Ouais. C'est intéressant, ça vous donne une idée du personnage un peu que John Bloom est.
Il est fascinant, il est super intéressant.
Oui, très intelligent. Et comme tu dis, il connaît
Oh ouais, c'est une machine. Il connaît son stock en maudit. Là. Vraiment. Joe Bob Briggs, donc.
Cool.
Et qui c'est qui va enchaîner?
Moi?
Oui.
On est dû pour des bons films. Là. Il reste 20 minutes. Là, faut qu'on parle juste de bons films.
Je parlerai pas de Culture Shock, d'abord.
OK. Ben, tu peux-tu nous dire, mettons, en deux phrases, qu'est-ce qui était pas bon dans Culture Shock? Parce que j'étais un peu déçu parce que Saul, Gigi Saul Guerrero, la réalisatrice,
oui,
je l'aime beaucoup. Puis depuis sa web série de l'an dernier, Quinceañera, moi, j'avais beaucoup d'attentes.
Oui. Ben, en fait, il y a toi et Marc Boisclair qui m'aviez beaucoup vendu cette réalisatrice-là.
En plus, qu'elle est magnifique.
Oui. Puis, écoute, ça a l'air d'être la chouchou, là. C'est la nouvelle chouchou. Donc, en gros, c'est comme un téléfilm. Ça fait partie d'une série, c'est Into the Dark, qui souligne...
Un peu comme Masters of Horror, oui, mais là, c'est, Fear Itself.
Sauf que chaque émission a un thème de fête. Ouais, donc, oui. Là, c'est le 4 juillet. Écoute, vite. Je sais pas comment te le dire vite, mais bref.
C'était juste plate.
Non, mais c'était très plate. Soap opera, genre, tu dis, qu'est-ce que c'est ça? Puis tu dis tout ça, surtout tout ça pour ça. Et ce qui est dommage, c'est que Barbara Crampton, super bonne dedans, mais la partie dans la ville utopique, ça dure une demi-heure, pas plus, puis j'en aurais pu rire plus. Okay. Bref, moi, une grosse déception, mais ça a l'air qu'elle a eu un Standing Ovation après.
Ouais, mais c'est comme, tu l'as dit, c'est une chouchou.
C'est ça.
Les gens vont se lever parce qu'on l'aime. On l'aime, la fille, la personne. Fait que je pense qu'on y pardonne plus facilement.
Mais apparemment qu'il y a quand même quelques personnes qui ont bien aimé ça.
Ah, fait ouais.
Ouais. Bon. Nous,
mais tant
trois,
mieux pour eux, en fait.
Ben, oui, tant mieux pour eux.
Mais c'est, moi, j'ai pas entendu personne qui aimait ça.
Mais.
En tout cas.
Non, c'était assez décevant.
Bon. Mais parle-nous de bonnes affaires, là.
Tu veux-tu qu'on enchaîne avec Tone Deaf?
Vas-y.
Que t'as vu.
Je l'ai vu.
Tu l'as vu, hein?
Ouais.
C'est un film de Richard Bates Jr. Moi, j'ai vu aucun de ses films. J'ai pas vu Trash Fire. J'ai vu
Incision. J'ai d'ailleurs encore l'objet promotionnel
qui
ont
donné.
Ouais.
Ah, moi, j'ai capoté sur Incision, là. Je m'excuse.
C'est correct. Moi, c'est un réalisateur que je connaissais pas.
Mais moi, j'avais vu Incision justement en Fantasia il y a quelques années et j'ai encore l'objet promotionnel que les réalisateurs avaient donné dans la salle, c'est-à-dire un tampon utilisé dans une petite fiole à porter un collier.
Oh!
Il avait passé toute la nuit à faire ça dans la chambre d'hôtel.
Wow!
Mais je suis pas très fan de ce réalisateur-là.
Okay. Ben moi j'ai rien vu d'autre que celui-là. Ah, écoute, en gros, c'est l'histoire d'une fille, comment on dit ça? Parce que j'ai juste milléniaux, là, mais une...
Milléniaux,
qui vient de se faire... Ben, elle vient de se séparer avec son chum, elle vient de perdre sa job... Tout le monde dit, va donc en campagne un peu, là. Puis là, elle loue un Airbnb qui se trouve à être, attends une minute, j'ai oublié son nom, là. Comme, Terminator. C'est pas Arnold, là, mais l'autre.
Ben oui, le méchant de Terminator.
Robert Patrick.
Oui, c'est ça.
C'est lui le propriétaire. Au début, il a l'air fin, mais finalement.
Il a pas l'air fin longtemps, là.
Non, il a pas l'air fin longtemps, mais finalement, c'est une guerre. Si on veut résumer ça simple, là, c'est une guerre entre les milléniaux et les baby boomers.
Ouais, pas mal ça.
Ouais.
Mais à la base, comment t'expliquerais l'élan? Parce que là, ça, c'est dans le synopsis.
Ouais.
Je veux pas te voler une ligne.
Non, pas du tout.
Je veux dire, c'est ça qu'il dit dans le synopsis, le propriétaire d'Airbnb. Il a jamais tué personne et il rêve de tuer.
Ouais.
Est-ce que t'as compris une autre motivation ou c'est juste ça, là?
Moi, j'ai l'impression que t'es amer de la vie puis là, qui s'est vengé. T'sais, tout le long du film, tu le vois, là, avec vos téléphones, avec, tu sais, un peu cliché, là, bon, comment sont les milléniaux, vous parlez pas, blablabla. Bref, on dirait qu'ils se défoulent là-dessus, mais écoute, moi, j'ai vraiment eu du plaisir.
Ouais, mais c'est pas des milléniaux qui tuent. Ça n'a pas rapport, son
c'est
propos.
Elle, ouais.
Non, son propos, il fait pas. Il tue sa meilleure amie, bordel.
Ouais,
ça a pas rapport.
Ouais, ça n'a pas rapport. Je suis d'accord avec toi.
Moi, c'est ça que je reproche. Il n'y a pas d'hostie de raison à personne de faire tout ce qu'ils font dans ce film-là. Ça fait pas de calice de sens. Puis ça me fait chier qu'il n'y ait pas de motivation. Il n'y a pas de motif réel. J'ai jamais tué personne, j'ai le goût de tuer. OK, c'est tout. C'est juste ça.
Non, mais est-ce correct que tu me rappelles le point? Puis est-ce as-tu vu tout ce que j'avais retenu? C'est cette guerre-là entre les milléniaux.
Ça m'a tellement. En fait, je l'ai détesté, moi.
Okay.
Parce que, tu sais, il y a quand ils font ces calls-là, c'est en brisant le quatrième mur, puis ils regardent la caméra, puis ils parlent à l'auditeur. T'aimais ça? Ah,
j'aimais ça, ouais.
Ça servait à quoi?
J'ai tellement trouvé ça drôle.
Ben oui, mais... Oh, man, j'ai tellement eu ça, moi.
Ah, ben c'est correct.
J'aurais punché le réalisateur.
Ah, oui.
Non! c'est pas une bonne idée!
Mais en tout cas, dans mon cas, moi, je l'ai trouvé super drôle. La passe avec les clous, je l'ai trouvé super efficace, même si on a vu ça 20 millions de fois.
Mais les meurtres sont intéressants. Ouais. Visuellement, c'est un film qui est très beau.
Écoute, la passe avec l'araignée, dégueulasse.
Ouais, c'était le fun.
Quand, tu sais, il y a des bons flashs. Ben, moi, j'ai passé une belle soirée à écouter ce film-là.
Ben, moi, j'ai pas aimé. Ouais, mais moi, je pense que j'étais là pour le juger. Je me suis assis, puis bon, ça va-tu être bon? Fait que, tu sais, des fois, je mets ma switch à off, pas ce soir-là. Ouais. Je l'ai analysé peut-être durement, mais j'ai pas aimé ça dans l'ensemble. J'aurais beaucoup de misère à aller plus haut que. Si je suis généreux, mettons d'une bonne journée, il m'a donné 6, d'une mauvaise, il m'a donné 5.
Ok, moi, j'aurais. Tu sais, j'étais plus à un 7.
Ah, ouais.
Ouais.
Ah, moi, je suis pas d'accord.
Ben non, ben c'est correct. Pis
mais pour moi, ce réalisateur-là, moi, j'ai de la misère.
Ok. Mais il faudrait que je vois ses autres films. Mais il y a un petit clin d'œil à la fin, j'ai fait ah, oh, c'est dans BQ.
Mais tu sais, quand je dis il n'y a jamais de raison à ses affaires,
mais t'aurais...
ben
non, mais...
c'est ça, ce réalisateur. Il n'y a jamais de bonne raison à faire
mais
ce qu'il fait.
Je t'accorde ce point-là. J'avoue que j'y avais pas pensé. Puis c'est vrai que ça avait pas de sens par rapport à ça.
Non, c'est ça.
Mais il vit quand même une frustration par rapport
à la nouvelle génération. Ça...
Oui, c'est correct, mais.
Il aurait pu, en fait, au lieu de regarder la caméra puis de nous raconter sa journée, il aurait dû pousser un peu ça. Okay. Tu sais, aller vraiment chercher quelque chose, élaborer plus ses personnages par rapport aux millennials puis boomers au lieu de.
Peut-être.
Moi, j'aurais préféré.
Peut-être. Écoute, t'écouteras Culture Shock, peut-être tu vas adorer ça.
Non, je pense pas.
Mais en tout cas, bref, autour de moi, nous, ça riait.
Moi, je reste curieux. Je suis impatient parce que je l'ai pas vu. Mais ben, voilà. Ce réalisateur-là, moi, Incision, j'avais vraiment aimé ça.
J'ai plus aimé ça que Incision.
Les femmes psychotiques, j'avais vraiment aimé Incision. Okay. Fait que je vais donner une chance. Je me souviens de la bande-annonce de...
Ben non, c'est sympathique. C'est
mais je suis curieux. Je reste au film comme un petit film d'après-midi. Là. Mais je reste
au film. Mais là, on parle du temps. Tu nous parles d'un film que tu n'as pas vu. Moi, je veux t'entendre sur un film que tu as vu. Ça te tente-tu de nous présenter Why Don't You Just Die?
Oui,
notre coup de cœur de la semaine.
Ouais. Ok, oui. Non, je vais en faire deux d'une shot assez vite.
Vas-y. Okay, vas-y.
Riot Girls, parce que personne n'en a parlé.
Oui,
ça,
Riot
c'était
Girls.
Une quand même une belle surprise, un film canadien qui était réalisé par Jovanka Vukovic. Donc, qui était vendu comme étant un film punk féministe.
Ouais.
Oui, mais c'est plus que ça. T'sais, le film est basé sur une structure de bande dessinée. Le film commence justement avec des blancs de bande dessinée pour nous raconter rapidement que notre monde en tant que tel devient infecté, si on veut. Donc, on deal avec un film un petit peu comme post-apocalyptique. Et c'est pas des infectés dans le sens des morts vivants ou des quoi que ce soit. Les gens, dès que tu commences à devenir adulte, ben tu commences à avoir des plaques noires puis tu meurs. Genre de virus que tu quand tu deviens adulte. Bref, c'est pas post-apocalyptique avec du brun partout ou quoi que ce soit. La faune est vivante, c'est pas le bordel
partout.
La
ville est pas détruite.
La ville est pas détruite, oui, les jeunes se sont fait des barricades. T'as vraiment le East Side et le West Side. Donc, un des deux, qui je me souviens plus lequel, qui est pauvre, l'autre est riche. Puis, si tu veux, comme le leader du parti un petit peu plus pauvre, se fait enlever par le West Side. Puis, il y a les Riot Girls. Donc, deux filles qui vont partir avec un petit nerd pour chercher ce gars-là qui est comme le frère d'une des filles. Puis, donc, c'est... Il y a vraiment un petit ton de... voyons... Turbo Kid, OK? BMX pis tout. T'as Justin Timbers qui joue dans le film, dans le rôle du méchant. Puis, autant que c'est cliché bubblegum comic book, moi, j'ai eu du plaisir là-dedans. Tu sais, les scènes de gore, quand il y en a, c'est efficace. Il y a une scène qui m'a assez surprise dans le film qui montre ça sur grand écran. Je suis comme, wow, OK. Mais, tu sais, overall, c'est pas un film que coûté beaucoup d'argent, ils ont placé leur argent au bon endroit.
OK, cool.
Puis ça a bien fonctionné. C'est je sais pas pour les fans de Riverdale où t'en as une clique qui tripe là-dessus Riverdale. Puis tu sais, tu vois,
c'est vrai que c'est le monde qui danse, là, Riverdale, puis tout.
Tu sais, comme les Archie, puis on tombe dans le même, mais avec le côté anarchiste, la soundtrack est super bonne.
OK.
Bien entendu, beaucoup de punk qui joue. La fin, un petit peu, j'ai été un petit peu déçu, ça s'est passé un petit peu trop vite. Tu sais, quand tu t'en vas pour pogner le méchant, let's go un petit peu plus. T'sais, je m'attendais à quoi d'un petit peu plus grandiose, mais j'ai fini le film, puis j'ai fait, ah, ok, cool. Moi, je donne personnellement un bon 6.5 sur 10.
Okay.
Puis c'est un film qui repassera à télé, je le réécouterai.
Okay.
Donc, j'ai eu du plaisir. L'autre film, je veux parler qui est, my God,
qu'on veut tout parler.
Mon coup de cœur, Fantasia.
Tu peux juste dire comment moi je vous ai appris que ce film-là était hot.
Ouais.
Comment ça s'est passé?
On attendait pour Ready or Not, et le film jouait tout juste avant. Et Simon sort et là il dit, faut que vous voyez ce film-là. Et là,
j'étais juste sorti pour aller aux toilettes, en fait, puis là, je suis tombé sur les autres.
Capotel, j'ai jamais vu Simon aussi excité, aussi hystérique.
Ouais, c'était malade.
Ouais.
Mais bon, vas-y.
C'est quoi déjà? Why isn't he dead?
Why don't you just die?
Why don't you just die? OK, un film russe que là, j'ai pas le nom du réalisateur.
Je l'ai, moi.
OK, c'est quoi le nom du réalisateur?
Kirill Sokolov.
OK.
K-I-R-I-L-L. Kirill Sokolov.
Pas familier du tout avec lui.
Non. C'est son premier film.
Ah, oui, c'est vrai.
Premier film, là.
C'est impressionnant.
Toute une carrière, puis le synopsis, vite, là.
Ah,
c'est l'histoire de d'un gars, Matevi, qui veut aller venger, finalement, sa petite amie, en tant que telle, qui lui a avoué que son père l'a agressé sexuellement quand il était petite. Donc, lui, il va cogner à sa porte avec un marteau, et dans l'intention
mais
de
c'est
le
elle.
Tuer.
C'est elle qui lui demande d'aller tuer mon père.
C'est pas son initiative.
T'sais, donc, là, s'ensuit d'une bataille.
Je sais pas comment le résumer. Je voulais pas le faire, je sais pas comment.
D'une bataille, on va dire ça comme ça. C'est
ouais, son père se laisse pas faire.
Non, mais c'est une belle chorégraphie, moi, je trouve.
Et boy! Hein?
Oui.
Et jusqu'à temps qu'on se rende compte que est-ce qu'il l'a vraiment abusé? Est-ce que lui pense que c'est un mélange? Est-ce que... C'est un policier corrompu.
Les cartes se mêlent. Le 12, là, quand ils tirent, pendant qu'ils se battent, le père va tirer dans le 12, dans le plus pas spoiler, hein, première partie du film. Il va tirer à coup de 12 pour pogner le jeune, finalement, ça va tirer dans le mur, puis là, il y a un froufoule de cash qui sort du mur, là. Il y avait ça de caché dans le mur.
Donc,
il y a plein d'affaires qui apparaissent que tu voyais, que tu savais pas, là.
Il pense, dès que ce coup de shotgun-là, parce que, ou le cash, là tu te rends compte, ok, là lui il pense pas que c'est ça, il y a un coup de téléphone qui se fait à un moment donné qui vient tout changer l'histoire par rapport à la perception de Matevi, celui qui est venu comme pour le tuer, et là les cartes se mêlent, ok, carrément, puis là on va arrêter là, mais dans le sens que le film est...
Les autres, ça, on dirait comprendre.
Il y a vraiment plusieurs twists.
Il y a beaucoup de twists. Ouais. C'est un film à chapitre, un petit peu à la Tarantino, qui s'est carrément inspiré de chacun des personnages qu'on suit dans le film. Donc, autant lui...
Guy Ritchie.
Au niveau des réalisateurs, Guy Ritchie, Tarantino, Danny Boyle, Chawon Park, en tout cas, réalisateur de Old Boy, tu mets ça dans un melting pot et avec une réalisation, avec une finesse là, j'avais peur que ça tombe vraiment dans un film de caméra qui bouge.
Des prouesses de caméra, mais en fait, c'est un beau tour de force.
Parce que
les prouesses caméra sont incroyablement bien réussies.
C'est bien dirigé.
Il
n'y
a pas
d'abus dirigé.
Non plus.
Non,
c'est bien dirigé. Il fait preuve de créativité là, dans ses flashs.
Et l'acting sont
super bons.
Tout le monde est bon.
Tout le monde joue avec le ton juste.
Puis tu sens que la musique qui joue souvent background, c'est typique russe.
Moi, je l'aimais beaucoup. Il y avait une toune dans les 80 aussi, très synthé.
Faction mélange, Simon, t'as une demi-heure d'écouter, tu vas capoté.
Oui, parce que je précise que moi, j'ai dû sortir... En tout cas, c'est compliqué.
Tu l'as pas vu au complet, là.
Je pourrais expliquer... En fait, je pourrais présenter Ready or Not. Je pourrais expliquer pourquoi j'ai pas vu la fin, mais j'ai dû sortir avant la fin du film et j'ai pas encore eu le temps de le terminer en screener, là, pour ceux qui savent ce que c'est. Donc, je vais le terminer ce soir, demain ou après-demain, dès que j'ai une minute.
Mais
donc,
autant notre note à toi puis à moi, Eric, là, moi, je donne un 8.5 sur 10. Solide.
Solide.
J'ai vraiment... Hey, méchante belle surprise hier.
8.5 C'est,
oh,
c'est,
wow. Ouais. J'ai hâte, j'ai le goût de retourner chez nous et l'écouter là, là. J'ai vraiment aimé ce film-là.
Donc, Why Don't You Just Die? Oh, on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir. Si ça va sortir, c'est un film russe, premier film. On n'a aucune idée ce que sera la distribution, mais on vous souhaite
de pouvoir
voir ça.
Même le générique de la fin, genre avec le... Les,
ouais.
Les...
Ah, c'est moi, super, je sais pas pourquoi j'en pense à la mère qui jouait dans le bon ton, oh, tu sais, un peu.
Seigneur.
Désabusé de la vie, mais qui est là puis qu'elle accepte tout. C'est magique.
OK, on parle de Ready or Not. Oui, il nous reste le temps pour un film seulement, malheureusement. Ce que je voulais dire pour Fox, je vais juste les résumer parce que vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais bon, j'étais Sandman pour le talk show. Fox nous a fait chier. C'est l'entrevue qui a été le plus chiant à organiser. Dès coup que le staff était là, on a fait le tournage, ça s'est bien passé. L'équipe était sympathique, rien à dire, mais gérer ça avec Fox à distance, ça a été l'enfer. Il a fallu faire l'entrevue à 9h30 le soir, juste avant la projection. La projection a débuté en retard, entre autres à cause de ça. Fait que, bref, fuck you Fox, mangez de la merde. Ceci étant dit, moi, ça l'a malheureusement teinté ma projection, cette colère-là que j'avais comme Fox. Je suis rentré en crise dans la salle contre le film, puis il était pas commencé. Fait que, mais ceci étant dit, c'est un film réalisé par Matt Bettinelli-Ulpin et Tyler Gillett. Deux gars vraiment sympathiques qu'on a eu la chance de rencontrer au talk show, justement. Ready or Not, c'est une femme qui va épouser un homme riche, une femme simple, avec elle avait pas de parents, t'sais, une fille sans parents, de famille d'accueil, puis tout ça, puis elle va épouser un homme riche d'une famille extrêmement riche. Puis là, il y a la cérémonie de mariage qui a lieu. Tout est beau, même s'il y a comme des malaises parce que c'est des riches, fait qu'ils sont un peu malaisants tout court. Ils sont un peu weird, mais pas weird pour faire spécial, juste très prétentieux, puis sont meilleurs que tout le monde. Après la cérémonie, que tu penses que là, on va juste aller fêter, et non, là, dans la famille, il y a une autre tradition. C'est une famille qui a fait son argent avec les jeux de table et tout ça, les jeux de cartes, jeux d'échecs, whatever. Et ils ont une tradition, c'est qu'il y a un jeu, ils doivent jouer à un jeu. La mariée, la nouvelle venue de la famille, doit jouer à un jeu pour faire partie de la famille. Puis là, c'est une petite boîte mystérieuse dans laquelle il y a des cartes. Tu vas piger ta carte qu'elle va te donner. Et le jeu qui est inscrit sur la carte, c'est le jeu que tu dois jouer. Ça fait 25 ans, 30 ans que le jeu de la cachette n'est pas sorti. Et c'est le jeu qui a une twist un peu particulière. Ce qu'on découvre, c'est que ils doivent trouver la mariée dans la maison et la tuer. Je n'irai pas plus loin. Le reste, il y a quand même des punchs. Puis de comprendre pourquoi ils font ça aussi, là, c'est quand même un punch. Donc, j'irai pas plus loin. C'est un film... Ça a été le film le plus hyper sécurisé de l'année avec les gardiens de sécurité dans la salle puis des lumières infrarouges pour s'assurer qu'on n'ait pas nos selles sorties. Christ, que c'était ridicule. Mais à chaque année, on a un film comme ça. Mais bon... moi, j'ai quand même aimé ça. Je suis sorti de là un peu grognon parce que je voulais vraiment haïr le film à cause de ce que j'avais vécu avec Fox, mais j'ai quand même eu du fun. Peut-être moins que vous parce que je suis un peu tanné des clichés américains, puis on va se le dire, c'est un film très américain. Mais qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Eric?
Ben, moi, j'ai trouvé ça super drôle quand même. Je sais pas pourquoi je pensais à Clou pendant ce temps-là, à cause, tout à cause de la grosse maison, là, tout le monde qui court en même temps.
Ouais. C'est un film vraiment bon. Mais moi, je donnerais un 7.
Éric,
moi
aussi, tu m'avais fait un petit comparatif
à Your Next. Ouais. Moi, ça va me passer à Your Next, que j'ai pas beaucoup aimé, mais je préfère Ready or Not. C'est drôle. J'ai fait des sauts, bon, ça, on s'en fout.
La violence est vraiment bien amenée.
Oui, tout à fait. Puis la tante, moi, la tante, je trouve super bien. Avec son air bête, ça vaut 1000 piastres.
Ouais. Mais, toi, tu l'as pas vu encore, hein?
Je l'ai pas
Il sort le 23, je pense.
Le 23 ou bientôt.
Ouais. Ouais. 7 sur 10. Moi, il y a d'autres films que j'aurais aimé parler. Si je suis motivé, on en parlera au retour parce que là, on va prendre une petite vacance. Mm-hmm. On est tous brûlés du festival. On a tous besoin, right?
Oui, ben tout à fait.
All right. Fait que je pense que c'est, on est juste dû. On est juste dû. On a besoin de petites vacances. On va prendre un 2-3 semaines, se reposer un peu avant de revenir. Donc, pas trop long. 2-3 semaines, juste question de se reposer. Puis on va revenir avec notre vrai créneau. On va parler de vieux films.
Hey.
Enfin, c'est le fun le festival, mais là, on s'ennuie des vieux films des années 80-70.
On a quelques idées en tête.
On a plein d'idées en tête. Ouais. Ceci étant dit, dernier mot pour résumer votre festival.
Ben, je prends par surprise. à l'année 2019 a été décevante pour moi un peu.
Ouais. Mm-hmm. Ça manque en général. En termes de quantité de bons films, parce qu'il y avait des films extraordinaires.
Oui, mais.
En quantité, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de films moyens comparativement à ce que je vais regarder il y a 3-4 ans.
Moins de choses marquantes.
Exactement. Je dirais la même chose et. Je vais pas parler d'année en année, mais on dirait que ça s'en va en descendant un petit peu.
Mais c'est pas de la faute à Fantasia. N'oubliez pas que c'est les films qui sont produits.
C'est ce qu'il y a de tout. C'est en termes d'expérience de ce que j'ai vu moi personnellement.
Ouais. Ouais. Cool. Mais, donc, on vous revient dans 2-3 semaines. Peut-être qu'avec la tête reposée, on pourra revenir un peu sur le festival aussi, puis sur les quelques films, parce qu'il y a quand même beaucoup de films qu'on n'a pas parlé, que j'aimerais parler. Freaks, Cocody, Cocoda. Il y en a plusieurs qu'on pourra vous jaser. Ceci étant dit, merci beaucoup de nous avoir suivis tout le long du festival. Merci à toute l'équipe du Festival Fantasia pour le beau festival. C'était malade. Et on se quitte encore une fois avec une toune de mars des années 90. On se quitte avec Moist Silver. Bonne semaine.
Bonnes vacances.